Vous écoutez On lit pour vous.
La santé du cerveau, une priorité pour les pays du G7. Un texte de Guy Rouleau paru le 21 mai 2026 dans La Conversation. Le cerveau humain, logé dans un crâne osseux, demeure en bonne partie un mystère pour l'ensemble de la communauté médicale. Avec sa structure et son anatomie complexe, le cerveau compterait plus de 3000 types de cellules, alors que la plupart des tissus n'en comptent pas plus d'une douzaine. C'est un organe dynamique qui réagit à son environnement et évolue au fil du temps. Il est également difficile d'accès et fait rarement l'objet d'une biopsie. Pourtant, le cerveau est au cœur de notre identité et de ce que nous sommes. C'est lui qui nous permet de penser, de communiquer, d'interagir avec les autres, de percevoir, de bouger et de découvrir le monde. Nos sociétés et nos économies dépendent en grande partie de la capacité de notre cerveau à fonctionner de manière optimale. Compte tenu du vieillissement de la population et de la baisse des taux de natalité, nous sommes confrontés à une situation critique. Il y a moins d'enfants et davantage de personnes âgées. Cette situation met en évidence la nécessité d'optimiser la santé cérébrale de chaque citoyen. La réunion des pays du G7 qui s'est tenue en juin 2026 à Évian, en France, fut l'occasion de faire de la santé cérébrale une priorité fondamentale. Une population vieillissante. De nombreux facteurs influencent la santé cérébrale tout au long de la vie. Certains enfants naissent par exemple avec des troubles neurodéveloppementaux comme une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou des troubles d'apprentissage. D'autres connaissent des conditions de vie défavorables telles que des soins prénataux insuffisants, une alimentation inadéquate ou des maltraitances, ce qui peut limiter le développement optimal du cerveau et augmenter le risque de troubles de la santé mentale. Ces enfants pourraient avoir moins de chances de mener une vie heureuse et épanouie et de contribuer à la réussite de notre société. À l'autre extrémité de la vie, la population vieillissante est exposée à diverses maladies neurodégénératives liées à l'âge qui sont source de souffrance. Les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, et d'autres formes de démence sont en hausse dans les pays du G7, entraînant une augmentation des dépenses de santé. Des mesures de promotion de la santé. En tant que société, nous devons déployer des efforts considérables pour améliorer la santé cérébrale. Deux stratégies peuvent nous aider sur ce plan. Premièrement, nous devons mettre en œuvre des interventions fondées sur des données probantes et dont l'efficacité est démontrée dans le domaine de la santé cérébrale. Pour les enfants, cela comprend notamment de bons soins prénataux, de la stimulation sensorielle, des interactions sociales actives, une alimentation saine, de l'activité physique et la prévention des traumatismes crâniens. Pour les adultes, il s'agit plutôt de réduire les facteurs de risque vasculaire comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité et le tabagisme. On leur conseillera notamment d'adopter une alimentation saine, de faire de l'activité physique, de bien dormir et d'avoir une vie sociale. Ces stratégies éprouvées doivent être soutenues et encouragées par les gouvernements. Nous avons pu constater le succès spectaculaire des mesures anti-tabac mises en place dans des pays comme le Canada pour diminuer l'incidence de l'emphysème et du cancer du poumon. D'autre part, nous avons pu observer les effets d'une intervention gouvernementale tardive sur les taux de tabagisme dans des pays comme la France, où l'attachement culturel au tabac est important. Financer la recherche sur le cerveau. Bien qu'il existe de nombreuses interventions éprouvées dans le domaine de la santé cérébrale, celles-ci sont généralement peu mises en pratique. Et même si tout le monde les adoptait, elles ne permettraient pas de réduire suffisamment les maladies neurodéveloppementales et neurodégénératives. La deuxième stratégie consiste à mettre au point de nouvelles mesures pour améliorer la santé cérébrale. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un financement ciblé et durable pour la recherche sur le cerveau à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays du G7, qui sont confrontés au vieillissement de leur population et disposent des infrastructures et des moyens financiers nécessaires pour investir dans la recherche sur la santé cérébrale. La génomique, la protéomique, la biologie des cellules uniques, l'imagerie cérébrale de pointe, l'intelligence artificielle, les cellules souches pluripotentes induites, CSPI, et les nouveaux modèles animaux doivent tous être mis à contribution pour approfondir notre compréhension du développement, du fonctionnement et de la dégénérescence du cerveau. Modèle de science ouverte. La grande complexité du cerveau et les défis liés à son étude nécessitent la collaboration d'importantes équipes scientifiques. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter un modèle de recherche en science ouverte permettant le partage rapide et libre des données, des algorithmes et des ressources, tout en préservant la confidentialité et l'indépendance. À titre d'exemple, pour exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, IA, il est nécessaire de rendre accessibles gratuitement de vastes ensembles de données de haute qualité. C'est la raison pour laquelle les académies des sciences des pays du G7 recommandent aux dirigeants du G7 de faire de la santé cérébrale une priorité pour tous ses membres. Ils pourront ainsi améliorer la vie des citoyens et contribuer à l'épanouissement de nos sociétés. C'était La santé du cerveau, une priorité pour les pays du G7. Un texte de Guy Rouleau, paru le 21 mai 2026 dans La Conversation.
Chaque personne itinérante coûte 77 600 $ par année. Un texte de Francis Vaille, paru le 16 juillet 2026 dans La Presse. L'itinérance est l'un des problèmes de l'heure. Non seulement constitue-t-elle un drame pour les personnes touchées, mais elle vient aussi avec une facture socio-économique très importante qu'on ne peut ignorer. Chiffrer les coûts de l'itinérance n'est pas simple, mais cela nous permettrait de mieux prendre conscience du problème commun auquel nous faisons face, d'autant que l'itinérance est en forte croissance, 75% depuis 7 ans. Pauline Marois vient d'ailleurs de rallier tous les chefs de parti au Québec pour un rendez-vous sur l'itinérance. Or, justement, une équipe de chercheurs menée par le professeur émérite Éric Latimer de l'Université McGill a fait le tour de la question et les résultats ont été récemment publiés dans un rapport du Cyrano. Je résume en un chiffre. Chaque personne itinérante au Québec coûte 77 600 $ par année en moyenne. Et pour l'ensemble des 10 000 sans-abri de l'année 2022 analysés dans l'étude, la facture s'est élevée à 776 millions de dollars, essentiellement assumée par le gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent. Et encore, il s'agit probablement d'un plancher puisque les chercheurs n'ont pas pu obtenir les coûts qu'engendre l'itinérance pour les municipalités, campements, etc., ou pour les commerçants, gardiens de sécurité, etc. Le premier coût considéré, de loin le plus important, est celui des organismes de bienfaisance liés aux personnes itinérantes qui s'occupent des hébergements d'urgence ou de transition ou des centres de jour, par exemple. Globalement, ces organismes aux financements divers ont consacré 445 millions pour les logements et les services aux personnes itinérantes en 2022. La deuxième facture vient des services publics, 244 millions, qu'on pense aux transports ambulanciers, aux hospitalisations, aux détentions, aux centres de thérapie, aux contacts policiers ou aux comparutions en cours notamment. Une autre des importantes factures, 30 millions, vient des ressources que consacrent les CISSS et les CIUS à l'itinérance, notamment en santé mentale. Bref, la facture s'élève à 776 millions pour l'ensemble du Québec, soit 77 600 $ par personne itinérante. Améliorer la situation et réduire la facture? Serait-on à même de réduire la facture tout en améliorant le sort des sans-abri? Ce n'est pas impossible. Éric Latimer estime qu'en fournissant un logement permanent aux personnes itinérantes, il serait possible d'économiser beaucoup en hébergement d'urgence, en logement de transition ou autre. De fait, si on parvenait théoriquement à loger tous les sans-abri, les coûts de 445 millions estimés dans l'étude qui sont liés à l'hébergement temporaire pourraient être réduits de moitié après 5 ans, croit l'économiste et professeur émérite du département de psychiatrie de l'Université McGill. Bref, il y aurait une économie annuelle possible de plus de 200 millions après quelques années, qui pourrait servir à financer les logements permanents. En revanche, les besoins de services psychosociaux et de santé pour ces gens ne disparaîtraient pas pour autant, et il faudrait investir en prévention notamment. On ne peut conclure qu'il y aurait des économies avec une assurance fondée sur des études rigoureuses. Mais pour moi, en tant qu'expert sur le sujet, je crois que c'est le résultat probable d'une stratégie bien pensée et bien exécutée pour réduire grandement l'itinérance, m'explique Éric Latimer. Une telle politique, qui tendrait vers des logements permanents autant que faire se peut, permettrait aussi à certaines entreprises privées de réduire leurs frais. Le complexe des Jardins, par exemple, consacre quelque 2 millions par année à des gardiens de sécurité et une part s'explique par l'itinérance, explique M. Latimer. Même chose pour les ressources importantes que les municipalités consacrent à l'itinérance, non estimées dans l'étude. Autre effet bénéfique difficile à mesurer, l'impact qu'aurait la baisse de l'itinérance sur l'attractivité à long terme d'une ville comme Montréal, par exemple, autant auprès des touristes que des résidents. Les auteurs n'ont pas cherché à quantifier cet aspect. Enfin, des solutions durables qui stopperaient la croissance de l'itinérance pourraient être de nature à freiner l'augmentation de la facture, ce qui s'avérerait bénéfique. Rappelons que le nombre de personnes itinérantes au Québec est passé de quelque 6 900 en 2018 à près de 12 100 en 2025, soit un bond de 75 %. La faute au loyer. Les auteurs de l'étude ont voulu savoir jusqu'à quel point certains éléments économiques, comme le chômage et le boom des loyers, pouvaient être responsables de la croissance de l'itinérance. En fouillant les études internationales, ils ont constaté que le chômage ne semble pas avoir beaucoup d'incidence sur l'itinérance. Par contre, le prix des logements constitue un prédicteur structurel important de l'itinérance. Plus précisément, 16 des 26 études internationales sur le sujet ont constaté une relation statistiquement significative élevée entre les loyers élevés et une augmentation de l'itinérance, indique le rapport des chercheurs. Pas surprenant donc que l'itinérance ait bondi à Montréal et ailleurs avec la crise du logement et l'explosion des loyers ces dernières années. Le rapport fait valoir que le coût de l'inaction est élevé et qu'il faut remplacer la gestion basée sur l'urgence, refuge, intervention policière, hospitalisation, par des solutions pérennes comme la prévention, l'accès à des logements abordables et le traitement des dépendances, par exemple. Les chercheurs constatent que les programmes de type « logement d'abord » qui fournissent un logement permanent accompagné de soutiens psychosociaux réduiraient de façon importante le recours à l'hébergement d'urgence et aux services de santé, comme expliqué plus haut. Les logements dits de transition, accompagnement vers l'autonomie, apparaissent moins efficaces, Un supplément au loyer à long terme, même sans service de soutien, le serait davantage. Soit nous laissons l'itinérance augmenter, ce qui va engendrer des coûts grandissants simplement pour maintenir ces personnes en vie, notamment à cause des drogues de plus en plus nocives, soit nous entreprenons un virage résolu vers une politique visant un logement décent pour chaque personne, avec les soutiens dont elle a besoin pour se réintégrer socialement autant que possible, y compris en intégrant des emplois, m'explique M. Latimer. Au-delà de l'humanité de ce second choix, nos ressources seraient dépensées à bien meilleur escient parce qu'on s'adresserait à la racine du problème plutôt qu'à ses manifestations, dit-il. C'était « Chaque personne itinérante coûte 77 600 $ par année », un texte de Francis Vaille, paru le 16 juillet 2026 dans la presse.
Les deux visages du GLP 1. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Le populaire médicament GLP 1 semble aussi avoir des effets sur la peau, tantôt positifs, tantôt négatifs. Explication. Commençons par le positif. Les analogues du GLP-1, Ozempic, Wegovy, Saxenda, et les doubles agonistes, Mounjaro, Zepbound, sont de plus en plus prescrits. Selon les plus récentes enquêtes, 8 % des adultes affirment en prendre au Canada et plus encore 11 % aux États-Unis. Ces molécules sont officiellement prescrites contre le diabète de type 2, l'obésité, les risques cardiovasculaires et les conditions métaboliques reliées. Mais les dermatologues s'y intéressent eux aussi de plus en plus. Selon des données récentes, ces molécules semblent avoir un effet positif sur certaines maladies de peau, chez les patients qui en prennent pour l'obésité ou la résistance à l'insuline. C'est le cas notamment pour l'hidradénite suppurée, le psoriasis, l'eczéma et l'acné. Selon le docteur Ivan Litvinov, dermatologue, aucun organisme de réglementation à travers le monde n'a approuvé ces médicaments pour une indication dermatologique. Mais les dermatologues sont de plus en plus amenés à recommander ou à co-prescrire ces agents pour des patients chez qui les maladies de peau coexistent avec l'obésité ou la résistance à l'insuline. Comment ces molécules contribueraient-elles à atténuer les symptômes de ces maladies? À la fois de façon indirecte, à cause de la perte de poids qui réduit l'inflammation, et directe, en exerçant elle-même des effets anti-inflammatoires, indique le docteur Litvinov, professeur associé à l'Université McGill et dermatologue au Centre hospitalier de St. Mary. Le docteur Litvinov le dit sans détour. Il a lui-même perdu 15 kilos grâce à cette médication, lui qui commençait à avoir un peu de gras sur le foie. Nous sommes des individus performants, occupés, avec des familles. C'est très difficile de gérer son poids. À ses yeux, d'ailleurs, le corps médical devrait cesser de cibler le poids et mettre de l'avant un autre indicateur qui prédit mieux les problèmes métaboliques. L'hyperinsulinémie. C'est un chiffre concret et mesurable qui appartient à l'individu, Elle ne dépend pas de l'apparence de quelqu'un, de la taille de ses vêtements ou de la façon dont un clinicien perçoit son corps. Et le négatif. Maintenant, passons aux aspects moins reluisants. La fameuse Ozempic face. La médication GLP-1 peut provoquer une perte de poids rapide et, dans certains cas, entraîner un état catabolique. Les graisses et les muscles fondent. En conséquence, la peau devient moins ferme, se relâche, et les plis ainsi que les rides augmentent. L'arrivée des molécules change complètement les règles, tant en médecine qu'en esthétique, observe le docteur Andrea Nicolis, professeur agrégé de chirurgie plastique à l'Université McGill. Le docteur Nicolis a dirigé les travaux des premiers consensus médicaux sur les besoins esthétiques des patients qui perdent du poids grâce à ces molécules. Les experts ont convenu que, chez les personnes présentant une perte de poids rapide, l'effet s'apparente à un vieillissement facial accéléré. En quoi la perte de poids affecte-t-elle la peau? Les patients mangent moins, ils perdent du poids rapidement et leur peau produit moins de collagène, explique le docteur Nicolis. L'élasticité de la peau diminue, le gras fond, mais l'enveloppe cutanée, elle, demeure. Alors la peau tombe, résume-t-il. On a plusieurs traitements à leur offrir, mais ce n'est pas une discussion facile à avoir parce qu'on a des patients qui se sentent tellement bien de perdre du poids. Et nous, on leur demande de commencer des traitements pour soutenir et améliorer la qualité de la peau. Le deuxième consensus, publié en décembre 2025 dans le Journal of Cosmetic Dermatology, suggère de commencer des traitements de biostimulateurs en même temps que la perte de poids. Des traitements injectables peuvent stimuler la production de collagène ou encore améliorer l'hydratation de la peau, explique le docteur Nicolis. Et combien ça coûte tout ça? Quand même cher, convient-il. Les biostimulateurs, par exemple, coûtent entre 1 000 et 2 000 par traitement. Normalement, explique le docteur Nicolis, on répète les traitements 2 ou 3 fois, toutes les 4 à 6 semaines, puis tous les 6 à 8 mois, pour soutenir le résultat. L'acide hyaluronique, pour sa part, coûte de 600 à 1000 $ par seringue pour une durée de vie entre 9 et 15 mois. Les injections ne sont pas le seul facteur, souligne le docteur Andrea Nicolis. Les patients qui perdent du poids doivent aussi garder leur peau bien hydratée, boire de l'eau, s'assurer de bien manger et faire du sport, particulièrement de l'entraînement en résistance pour préserver leur masse musculaire. C'était les deux visages du GLP-1. Un texte de Catherine Hanfield paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.
L'affaire Lysenko. Politique et science ne font pas bon ménage. Un texte de la rédaction paru le 25 mai 2022 dans Québec Science. Le cas Lysenko est une leçon importante de l'histoire pour comprendre les effets néfastes du mélange de la science avec des idéologies politiques. Les recherches scientifiques perdent alors leur objectivité et cela peut avoir des conséquences désastreuses. Parlons de Trofim Lysenko. Probablement pas, alors que ce scientifique est probablement responsable de la mort de millions de personnes au XXe siècle. Que s'est-il passé? Revenons en arrière. Nous sommes dans les années 1920, en URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques, un grand pays maintenant dissous qui comptait plusieurs républiques, dont la Russie. Joseph Staline est au pouvoir. Le régime communiste en place prône une économie entièrement contrôlée par l'État. Notamment, les terres agricoles sont regroupées en exploitations collectives dans l'objectif de moderniser l'agriculture. Après une série de mauvaises récoltes, la famine commence à s'étendre. C'est ici qu'intervient Trofim Lysenko. Biologiste et agronome, il met au point une technique pour permettre aux cultures de survivre au froid qui fait rage dans l'Empire soviétique, la vernalisation. Elle consiste à exposer les graines et les jeunes plants au froid pour favoriser leur adaptation au milieu dans lequel ils grandissent. Selon lui, cette technique permettrait de quadrupler le rendement agricole des cultures. On s'en doute, c'est de la pseudo-science. De la foutaise. Mais cette technique s'oppose à la sélection génétique utilisée dans l'agriculture occidentale. Comme tout ce qui vient de l'Occident est rejeté par le Parti communiste au pouvoir à cette époque, la vernalisation de Lysenko est privilégiée et la sélection génétique est écartée. Et cela pour des raisons idéologiques, sans prendre en compte l'efficacité des différentes méthodes agricoles. C'est ainsi que Lysenko gagne la confiance de Staline et monte les échelons du pouvoir. Il devient même un véritable héros de l'Union soviétique. Pourtant, cette technique n'a pas l'efficacité que l'agronome le laisse entendre. Il aurait même truqué ses expériences et montré de faux résultats. On a quand même appliqué la méthode et, faute de récolte, des millions de personnes sont mortes de faim. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? La démarche scientifique nécessite la plus grande objectivité possible. Lorsque l'idéologie et la politique se mêlent à la science, l'interprétation des résultats est alors erronée et on obtient un raisonnement scientifiquement faux. Et cela peut tuer des gens. C'était l'affaire Lysenko. Politique et science ne font pas bon ménage. Un texte de la rédaction paru le 25 mai 2022 dans Québec Science.